J, il est 21h.
Enfants de la République, tous les dimanches sur Radio J à 9h, au micro de Frédéric Aziza.
Ce dimanche, je recevrai le journaliste de Libération, Jean Quatremer.
Les enfants de la République, c'est tous les dimanches à 9h, uniquement sur Radio J. Radio J.
Livre au Café des Psaumes. Radio J.
Bonsoir, chers auditeurs de Radio J, ici Michael Gomez-Guttard. Vous écoutez Livre au Café des Psaumes. Nous avons le plaisir ce soir de recevoir Alexandre Dico, qui vient nous présenter le dictionnaire Max Jacob. Ça vient juste de sortir aux éditions classiques Garnier. Max Jacob a une vie extrêmement riche, que ce soit au niveau de sa production artistique ou que de ses fréquentations. Je pourrais citer comme ça au hasard Picasso, Cocteau, Modigliani, Satie, Poulenc, Apollinaire, et même, je l'ai découvert là en parcourant ce dictionnaire, un certain docteur Jacques Lacan. Voilà, faut croire qu'il était partout, celui-là. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Alexander Dico, j'aimerais savoir, vous qui êtes originaire du Kentucky, vous enseignez le français à l'université de Virginia Tech, j'aimerais savoir comment êtes-vous arrivé jusqu'à Max Jacob ?
Alors, je lisais quand j'étais adolescent une anthologie de poésie française, et il y a trois figures qui me semblaient ne ressembler à rien d'autre dans le volume. C'était Lautréamont, Michaud et Max Jacob. Et ils me semblaient tout à fait singuliers dans le paysage. Et donc, j'ai commencé à lire Max Jacob à côté de ces deux autres, bien sûr. Bon, Lautréamont un peu plus tard. Mais je l'ai lu et j'ai dégusté ça avec beaucoup de joie. C'était Le Cornet à dés, hein, qui est l'ouvrage le plus connu de Max Jacob. Et j'ai découvert à partir de là tout un univers d'écrivains modernistes de sa génération, donc des années 10, Roverdi, Cocteau, effectivement, Apollinaire, tous ces artistes qui circulaient autour de lui dans les années 10. Donc ce qu'on appelle l'esprit nouveau parfois, et aujourd'hui on utilise aussi le mot moderniste pour décrire ce groupe qui précède le surréalisme et qui est un peu entre le symbolisme et le surréalisme.
Alors je précise que ce dictionnaire Max Jacob donc est co-dirigé par vous-même et Patricia Sustrac, avec qui donc vous co-dirigez également les fameux cahiers Max Jacob, et Patricia Sustrac étant la présidente des amis de Max Jacob. J'avais envie qu'on parcourt ensemble ce dictionnaire, pas forcément par ordre alphabétique, mais il m'a quand même semblé important de commencer par la lettre A, qui curieusement correspond à la fin de la vie de Max Jacob, puisque à la lettre A, on trouve l'entrée « arrestation ».
Tout à fait. Donc Max Jacob, enfin un objet de sa célébrité en partie, c'est sa mort à Drancy le 5 mars 1944. Il a été arrêté par donc le Gestapo le 24 février, donc très peu avant. Il est tombé malade et il est mort à Drancy avant d'être déporté. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent autour de cette mort, dans la mesure où il y a des rumeurs qui courent que Picasso ne l'aurait pas soutenu alors que c'était son grand ami, que Cocteau n'aurait pas fait assez de choses pour le sauver, etc. En fait, on a fait pas mal de recherches là-dessus, et notamment Patricia qui a vraiment déblayé le terrain pour essayer de se défaire un peu des légendes autour de sa mort. On sait que Picasso, par exemple, Georges Prade, qui n'était pas un personnage recommandable, n'a pas voulu que Picasso signe la requête de libération que Cocteau avait rédigée. Donc, parce qu'on croyait que ça pouvait porter préjudice au cas de Jacob. Donc, il a eu tout le mal du monde, qu'il a dit, à chasser Picasso de cette requête. Donc, Il y a aussi beaucoup de d'ouï-dire là-dedans. Donc il y a un biographe un peu plus tard, Pierre Andreux, de Max Jacob, qui rapporte des propos d'Henri Sauguet et de quelques autres, comme quoi Picasso aurait dit des choses assez horribles après l'arrestation de Max Jacob et n'aurait pas vraiment participé à ses tentatives de le libérer avant sa mort. Et c'est assez clair que c'est des choses qui viennent de seconde main et qui ne sont pas forcément fiables. Picasso n'est pas un saint, mais je crois qu'il y a beaucoup de rumeurs en fait dans ces affaires-là. Donc Max Jacob est un victime de la Shoah. On a fait une requête de libération qui n'a probablement pas été transmise aux autorités compétentes en fait pour traiter ce genre de dossier. De toute façon, c'était à une époque où il y avait très peu de risques que ce soit reçu, de toute façon, très peu de possibilités d'être entendu. Il est comme bien d'autres une victime de cette machinerie de la Shoah.
Alors cette fin tragique de Max Jacob à Drancy nous amène donc naturellement à une autre entrée donc de votre dictionnaire Max Jacob, qui est celle du judaïsme. Donc Max Jacob était donc juif, né juif, mais a eu, c'est le moins que puisse dire, au long de sa vie, un rapport extrêmement compliqué à cette origine. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point, Alexander Dicko?
Oui, tout à fait. Alors, il est né dans une famille qui n'était pas particulièrement pratiquante, en Bretagne, à Quimper. Alors, ses grands-parents étaient assez pratiquants, ses parents, pas vraiment. Alors, on mangeait pas le porc chez lui. Enfin, il y avait quelques traces quand même de ses origines. Et il s'est converti au catholicisme, donc, en 1915, après d'avoir eu des visions, une sorte d'apparition qui lui est parue sur le mur, en 1909. Et il avait des idées religieuses en 1909, il avait des idées un peu syncrétistes, un peu théosophiques sur le mélange des religions et la vérité métaphysique de différentes religions. Et il s'est tourné progressivement vers le catholicisme, qui est devenu un peu le ce qui orientait toute sa vie par la suite. Il a écrit beaucoup de poésies religieuses, etc. Sa connaissance de l'hébreu était très très approximative, voire minimale. Il y a un échange étrange avec Éluard, où il note des choses en hébreu sur une enveloppe à Éluard vers la fin de sa vie, mais c'est pas très clair ce qu'il a écrit en fait. Donc c'est difficile à dire ce qu'il ses vraies connaissances. Il s'intéressait beaucoup à la Kabbale, il a lu le Zohar très tôt dans les années avant les années 10 et il a lu le livre de Paul Vulliau, la Kabbale, je sais plus comment ça s'appelle, un peu plus tard dans les années 30. Donc il s'intéressait au judaïsme, ça c'est sûr. Par contre, puisqu'il s'était converti au catholicisme, son rapport à des membres de la famille, à des cousins comme Bloch, Jean-Richard Bloch ou comme Rosenthal, son cousin qui était le directeur de L'Oeuvre, une revue d'avant-garde, c'était assez compliqué. Donc il disait, soit il disait il faut pratiquer, il faut assumer votre religion juive, etc., et pratiquer, soit il disait il faut vous convertir. Voilà, il faut te convertir. Et donc c'était ça son attitude envers d'autres juifs de la communauté. Dans la défense de Tartuffe, il a des mots assez durs à propos des juifs et du judaïsme, qui reflètent un peu l'air du temps, etc. Donc il est pas toujours généreux ou envers ces origines-là. Il a des ambivalences, on va dire, mais c'est quelqu'un, par contre, qui ne supporte pas l'antisémitisme, absolument pas. Donc, quand il y avait des correspondants qui lui montraient des signes d'antisémitisme tranchés, il les rejette, il se brouille avec ces personnages très rapidement. Il y a un petit échange avec Céline, ça c'est assez curieux, mais ils ont échangé 2-3 lettres, mais il n'y avait aucune sympathie entre ces personnages, évidemment. c'était pas possible.
Alors, puisque vous évoquez les lettres, donc il y a une entrée correspondance, puisqu'effectivement, Max Jacob était un épistolier prolifique. Il me semble qu'on a retrouvé environ 8000 lettres, mais qu'il doit y en avoir en circulation peut-être autant. Quelle place tenait cette production épistolaire dans la vie et l'œuvre de Max Jacob?
Alors c'était un épistolier prodigieux, effectivement. Il y a 7800 lettres qui sont environ, hein, qui ont été répertoriées. Il y en a quelques autres qui flottent sur le marché, effectivement. De temps en temps, on voit des lettres apparaître. On n'a que des correspondances, on n'a que ses lettres à lui, généralement, parce qu'il brûlait les lettres de ses correspondants à cause d'un vol d'autographes qui a eu lieu, à cause, bien sûr, de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, qui l'ont encouragé à essayer de ne pas compromettre ses correspondants, etc., dans ce climat horrible de la Seconde Guerre mondiale. Mais on a pu dire que l'essentiel de son œuvre était la correspondance. Alors j'y crois pas personnellement, je pense que son œuvre poétique est quand même plus importante, mais tout de même, c'est une part de l'œuvre vraiment significative. Je conseille à tout le monde d'aller lire la correspondance avec Marcel Béalu ou avec avec d'autres personnages de l'époque. La correspondance à Paul Éluard que Patricia a publié dans les cahiers avec moi. C'est elle qui s'est occupée de cette correspondance, et c'est une magnifique correspondance parce que Jacob se sentait rejeté par des surréalistes dans les années 20, et Éluard revient vers lui vers la fin de sa vie, et c'est une sorte de réconciliation, en fait, de retrouvailles avec cette part du paysage littéraire qui l'avait rejeté. Et donc c'est une très belle correspondance avec Éluard en particulier.
Alors il y a une entrée qui m'a personnellement énormément intéressé à la lettre J, c'est Edmond Jabès. Edmond Jabès, donc, si j'ai bien compris, était une sorte de disciple de Max Jacob. Quel était leur rapport et quelle a été éventuellement l'influence de Max Jacob sur l'œuvre du très grand Edmond Jabès?
Alors en fait, Jacob l'a encouragé à interroger ses origines juives très tôt. Donc ça, c'est une influence. Enfin, il l'a tourné dans ce sens-là, ou influencé ce tournant dans l'œuvre de Jabès. C'est avant le livre des questions, hein, bien sûr. Hein, c'est bien avant. Il y a un livre de Jabès qui s'appelait, je pense que c'est juste une plaquette, je sais pas exactement, qui s'appelait Le fond de l'eau.
C'est à l'époque, il est toujours en Égypte.
Oui, tout à fait. Oui, c'est par correspondance que ça se passe pour l'essentiel. Il y a une belle anecdote de l'attitude pédagogique de Jacob. Jacob était un grand pédagogue. Il y avait beaucoup de jeunes poètes qui venaient à lui. Et il y a une belle anecdote qui raconte que Jabès l'aurait rencontré à un moment donné, et Jacob aurait déchiré son recueil de poèmes devant lui. Alors je pense que c'est un peu romancé, hein, que c'est un peu enjolivé. Il aurait déchiré les poèmes en disant « Tu fais de la poésie qui est trop influencée par moi. Il faut faire quelque chose d'authentiquement. Il faut faire de l'Edmond Jabès et pas du Max Jacob. J'ai fait mon temps. Il est temps de passer à autre chose et de faire ta propre œuvre. » Et c'est Jabès qui raconte cette anecdote. Hein, c'est lui-même qui raconte cette version des faits. Et effectivement, Jabès a une voix affirmée qui est très très différente de Max Jacob. Jacob n'aimait pas l'imitation en général, et donc il était aussi à Rimbaud en partie parce que il y avait des imitateurs de Rimbaud, enfin qui étaient très influencés par Rimbaud, et ça l'insupportait. Il trouvait que il faut faire son propre truc, il faut pas emprunter au symbolisme ou à Mallarmé ou à un tel, il faut faire trouver son propre jeu littéraire à entreprendre. Donc ça, c'est le rapport de Jabès à Jacob. C'était un disciple et en même temps qui était encouragé à trouver sa propre voie. Dans les deux sens, voire avec un E et avec un X.
Et alors, donc Max Jacob s'est énormément intéressé à la musique. Il a fréquenté Francis Poulenc, Eric Satie. Quelle place tenait la musique dans la vie de et dans le travail surtout de Max Jacob?
Alors, c'était un homme de théâtre en particulier. Il a fait beaucoup de théâtre et il a collaboré avec plusieurs musiciens sur des livrets d'opérettes et de choses comme ça. Donc avec Sauguet, avec Roland Manuel, avec d'autres personnages. Donc par ce biais-là, il s'intéressait à la musique et il collaborait avec des musiciens. Il a connu Satie, il a connu Poulenc. Poulenc avait une grande admiration pour Jacob. Je crois que Jacob dit quelque part que Poulenc était son musicien préféré, que c'était son préféré parmi les musiciens qu'il connaissait, qu'il fréquentait. Poulenc, effectivement, si vous avez l'occasion d'écouter Le Bal Masqué, c'est basé sur des poèmes de Max Jacob, du Laboratoire Central, qui est un recueil de 1921. C'est une œuvre très drôle, très 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 enjouée, très intéressante. Voilà.
Alors à la lettre D, surprise, j'étais très très amusé de découvrir donc la passion que vouait Max Jacob pour, tenez-vous bien, les dictionnaires. On est là pour parler du dictionnaire Max Jacob et l'entrée dictionnaire me paraît merveilleuse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, j'ai noté que donc Max Jacob écrivait à un de ses correspondants, il lui conseillait de, je cite, s'agrandir avec les dictionnaires. Quel était, d'où venait cet amour pour les dictionnaires et quel usage en faisait-il?
Alors en partie, c'est la notion que la poésie surgit non pas de l'inspiration, mais du travail. Jacob pensait vraiment très fermement qu'il fallait travailler pour produire l'étincelle poétique. Bon, l'inspiration, ça arrive de temps en temps. Il dit dans le conseil à un jeune poète vers la fin de sa vie, en 42, que l'inspiration, c'est une bonne chose, ça arrive de temps en temps, mais c'est surtout le travail qui compte. Et le dictionnaire est un outil, donc, dans ce travail poétique, qui permet de retrouver la joie des mots, découvrir de nouveaux mots. Il parle de gargariser avec les mots, enfin, de vraiment se réjouir de la matière verbale en écrivant de la poésie. Et le dictionnaire est un moyen de faire ça, hein, de découvrir de nouveaux mots et de mâcher la matière verbale.
Et alors quel rapport entretenait-il avec la Nouvelle Revue Française, la NRF?
Alors il était un grand correspondant de Jean Paulhan. Il est entré dans les années 20 dans les pages de la NRF. Il y a une édition originale quelque part qui est dédiée à Jacques Rivière. Il connaissait ces personnages.
Et Jacques Rivière, une des premières grandes figures des tout débuts de la NRF.
Revue française, ouais, tout à fait. Donc Gallimard l'a invité à publier des choses chez Gallimard et plus tard a fait un contrat avec Max Jacob pour que Jacob publie toutes ses œuvres à l'enseigne de Gallimard. En fait, ça a assez mal marché parce que Jacob avait tendance à publier avec d'autres éditeurs alors qu'il avait donné l'exclusivité à Gaston Gallimard. Donc, ça c'était une relation difficultueuse. Par contre, avec Paulhan l'a soutenu de manière tout à fait constante et vigoureusement auprès de ses collègues. Donc Paulhan est absolument irréprochable en ce qui concerne Max Jacob. Il l'a vraiment soutenu jusqu'au bout pour que ses œuvres soient publiées, etc., aussi bien dans les pages de la NRF que chez Gallimard. Donc Paulhan est vraiment le relais important entre Jacob et la NRF et Gallimard.
Alexandre Ducot, est-ce que vous pouvez nous parler de Saint-Benoît-sur-Loire?
Saint-Benoît-sur-Loire, c'est le village du Loiret auquel Max Jacob s'est retiré en 1921. Il est reparti à Paris en 1928, me semble-t-il, et puis il est revenu à Saint-Benoît dans les années finales de sa vie, après 1936. Donc il a fait des va-et-vient entre Paris et Saint-Benoît-sur-Loire, et c'est une manière de retrouver une vie sereine qui lui permettait de travailler, sans trop dépenser de sous. Paris, c'est cher. Il s'est retiré dans ce village. Alors il n'a jamais été oblat ni eu de rôle. Alors il a été cicérone, c'est-à-dire il montrait les gens qui venaient visiter l'abbaye à Saint-Benoît-sur-Loire, il leur montrait l'abbaye et compagnie, mais il n'a pas fait partie d'un monastère ou ce genre de choses, hein. Il n'a pas été moine ni quoi que ce soit de ce type. Donc il s'est retiré. Après 28, il habite plutôt une maison qui est tout près de l'abbaye. Et dans les années 20, c'est dans le presbytère, je crois qu'il habite un moment, différents endroits. Voilà.
Et alors ce dictionnaire Max Jacob, qui est un dictionnaire, enfin un ouvrage très imposant, puisqu'il fait quasiment 800 pages. Il y a environ, j'ai compté tout à l'heure, il y a environ 74 ou 75 collaborateurs. Comment est-ce qu'on s'y prend pour établir un tel ouvrage? Et une autre question d'ailleurs. Il s'agit d'un dictionnaire, mais vous auriez pu tout aussi bien l'appeler encyclopédie.
Oui, tout à fait. Alors en fait,
il y a absolument tout ce qu'il y a à savoir sur Max Jacob.
Oui, alors donc les dictionnaires d'auteurs, c'est une sorte de genre qui est assez en vogue. En fait, il y a un dictionnaire Colette, il y a un dictionnaire Larbeau, enfin il y a différents dictionnaires d'auteurs comme ça, et ce sont des encyclopédies essentiellement autour de l'univers social et littéraire de tel ou tel auteur. Il y a aussi un dictionnaire du livre illustré, enfin il y a d'autres types de dictionnaires. On appelle ça des dictionnaires, mais effectivement on pourrait les appeler des encyclopédies si on veut. Alors comment on fait un dictionnaire? Alors en faisant très attention de ne pas égarer des fichiers, à garder les choses dans des dossiers de sorte qu'on puisse y retrouver entre les différentes versions des textes. Et donc on avait développé un système pour vérifier qu'on travaillait sur la bonne version de telle ou telle notice. Nous, on faisait un ping-pong, comme on l'appelle entre nous, de nos notices propres, pour que ce soit relu par l'autre et nettoyé si besoin. Pour les autres collaborateurs, on a eu moins à faire ce travail de ping-pong. Bon, de temps en temps, il y avait des corrections à faire, mais souvent, c'était des spécialistes, des grands spécialistes de Superviel ou de tel autre personnage. Et donc, il n'y avait pas beaucoup de choses à reprendre. Souvent, c'était des notices assez solides déjà. Donc, on a fait des ping-pong, aussi bien avec les collaborateurs qu'avec contre co-directeurs. Et je dois dire, c'est une joie de travailler avec Patricia Sustrac. Hein. C'est vraiment très, très fluide, hein, le processus de travail. Elle a un grand sens de la logistique. Elle arrive à gérer un tas de fichiers en même temps et à garder les choses organisées. Et c'est précieux dans un projet comme ça.
Et d'ailleurs, Patricia Sustrac, si je ne me trompe pas, habite elle-même à Saint-Benoît-sur-Loire, il me semble.
Alors, elle a habité tout près de Saint-Benoît-sur-Loire, mais en fait, elle est à Toulouse.
D'accord.
Voilà, tout à fait. Et voilà, donc il y a eu des glissements de terrain sur la ligne Paris-Toulouse en ce moment. Donc,
ce qui explique qu'elle n'est pas là parmi nous, et on le regrette, et on la salue bien chaleureusement. Alexander Dico, avant de se quitter, j'aimerais que vous puissiez conseiller aux plus jeunes lecteurs et même aux moins jeunes les œuvres par lesquelles il faudrait commencer, par lesquelles il faudrait se plonger dans l'œuvre de Max Jacob en 2025.
Alors, il y a trois œuvres que je conseillerais en fonction de ses goûts et de ses préférences. Alors, Le Cornet à dés est la porte d'entrée la plus typique de l'œuvre de Max Jacob, puisque c'est son œuvre la plus célèbre. C'est une poésie assez déroutante. Donc si on aime des choses qui on peut avoir le sentiment de perdre pied un petit peu, mais si on trouve une certaine jouissance dans ce sens de désorientation, de découvrir quelque chose de vraiment nouveau, alors le Corneade est pour vous. Alors si vous êtes plus intéressé par le personnage et par son rapport aux autres, qui est toujours plein d'affection, avec ce regard de pédagogue sur les œuvres des jeunes poètes, alors c'est La Correspondance. Je conseillerais volontiers La Correspondance de Béalu, qui va reparaître dans une nouvelle édition bientôt, ou avec Cadou, qui va paraître l'année prochaine, je crois, en 26 ou 27, je ne sais plus. Donc si vous vous intéressez au personnage, La Correspondance est un bon premier morceau à goûter. Et si vous vous intéressez à sa production romanesque ou en prose, les proses longues, vous êtes plutôt roman, ce genre de choses. Le Cabinet Noir est une série de lettres fictives qui sont absolument délicieuses. C'est des lettres de personnages fictifs qui est satirique et c'est vraiment un délice à découvrir. Donc voilà trois portes d'entrée à l'œuvre de Max Jacob.
Et j'en ajouterai une autre. C'est donc le dictionnaire Max Jacob. Sous la direction d'Alexandre Dico et Patricia Sustrac. Ça vient de paraître chez Classique Garnier. Allez vous jeter sur cet ouvrage. Vous pourrez le trouver dans toutes les bonnes librairies. Merci infiniment, Alexandre Dico.
Vous écoutez Radio J.
Radio J. Montez le son.
Vous écoutez Radio J.
Radio J.
Unter deine weiße Stirn streckt zu mir dein weiße Hand. Meine Wörter seinen Tränen. Ruhen in dein Hand. Seh es dunkelt, seh er finkel in mein Keller dicken Blick. Und ich hab gar nicht kein Winkel, seh zu schenken dir zurück. Und ich hab gar nicht kein Sei zu schenken dir zurück. Und ich will doch Gott mein Treuen, dir vertrauen meine Vermehr. Weil es Mond in mir auf Feier und in Feier meine Tät. In Kellern und Lächeln weint die mörderische Ruhe. Läuf ich hechel über Dächer und ich such, wo bist du wohl? Läuf ich hechel über Dächer und ich such. Jagen mich mehr Schuhe, treffen meine Keller dicken blüht. Und ich hab gar nicht kein Winkel, sie zu schenken dir zu lieb. Und ich hab gar nicht kein Winkel, sie zu schenken.
La journée s'annonce bien. Vous écoutez Radio J.
Lacroix.
Radio J.
Bonjour.
Bonjour chères auditrices, bonjour chers auditeurs. Alors ce matin, une fois n'est pas coutume, on va parler de l'Allemagne et de la construction de l'Europe. On se souvient, on garde en mémoire la phrase célèbre du poète Heinrich Heine au 19e siècle. Chaque fois que je pense à l'Allemagne la nuit, j'en perds le sommeil. Et notre invité, lui, ne perd pas le sommeil. C'est un spécialiste de l'Allemagne, professeur des universités, auteur de plusieurs essais, dont dernièrement Trieste, mon jardin mitteleuropéen, aux éditions des presses universitaires de Bordeaux. Stéphane Martens, bonjour.
Oui, bonjour Alexis Lacroix.
Bonjour Stéphane, vous êtes vous-même d'ailleurs d'origine allemande, vous savez de quoi vous parlez, et nous allons évoquer justement l'actualité, je ne dis pas de cette nouvelle Allemagne en tout cas, mais de l'Allemagne du chancelier Merz. Il a été désigné chancelier, ça a été un petit peu laborieux, d'ailleurs un petit peu difficile, et il a de hautes ambitions pour son pays, hautes ambitions qui concernent évidemment directement la France. Il le disait très récemment, Stéphane Martens, l'Allemagne est confrontée à de grands défis, à la fois économique et géopolitique. Et il faut la rendre à nouveau plus sûre, plus juste, mais aussi plus moderne et plus grande. Est-ce que vous pensez, Stéphane Martens, vous qui êtes un spécialiste de ces questions, que c'est bien parti, que Merz est sur la bonne voie ?
Alors, oui, bonjour d'abord, mais merci pour votre invitation, hein, pour pouvoir donner transmettre quelques remarques sur cette, comme vous dites Alexis, sur cette Allemagne de Friedrich Merz, pas la nouvelle puisque bon, elle est réunifiée depuis bientôt 35 ans et qu'on connaît, on a apprivoisé cette nouvelle Allemagne effectivement, mais peut-être un basculement en quelque sorte, je dirais même géopolitique majeur avec l'arrivée au pouvoir de Friedrich Merz et justement un contexte international hein, qui favoriserait ce basculement. Vous avez raison de rappeler effectivement que ce qu'a dit Friedrich Merz lors de son accession au pouvoir en mai dernier, après la Zeitenwende, ce changement d'époque annoncé par Olaf Scholz en 2022 à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, eh bien aujourd'hui on est face à un Epochenbruch, comme on dit en allemand, un changement radical d'époque, le terme Bruch qui implique l'idée de rupture. Et Friedrich Merz, face à ce contexte international, donc cette guerre qui perdure en Ukraine, et face à l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, un retour au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis, eh bien, a pris en quelque sorte le taureau par les cornes, avec l'idée d'une, peut-être même d'une rupture historique, hein, et concernant la politique étrangère de défense allemande, et puis un changement aussi de cap budgétaire.
Alors justement, on va y venir, Stéphane, on va décomposer, vous avez raison, il y a la question de l'économie, mais tout d'abord, vous l'avez d'ailleurs annoncé comme étant la première raison, ce nouveau tournant de l'Allemagne, hein, qui est en train d'être dessiné par Friedrich Merz, correspond, selon vous, à quelque chose de très clair qui est, on va dire, la puissance d'agressivité, mais aussi de nuisance de la Russie poutinienne, c'est cela ?
Oui, c'est ça. Donc Friedrich Merz prend acte de cette situation, un président russe qui, visiblement, n'est pas prêt à discuter avec les Occidentaux, en tout cas avec le président Zelensky, et qui veut mener une guerre jusqu'au boutiste, en quelque sorte. Donc les Allemands, de manière douloureuse, il faut le dire, prennent acte de ce contexte, de cette réalité. Et Friedrich Merz, c'est pour ça qu'il a annoncé effectivement un changement de cap budgétaire en matière de défense. Vous vous rappelez, hein, l'assouplissement du frein à la dette a été adopté avant même qu'il accède au pouvoir, en mai dernier, c'est-à-dire en mars, avec l'ancienne majorité, pour permettre effectivement un réarmement, une modernisation de l'armée allemande, donc frein à la dette assoupli, avec possibilité de financer les dépenses de défense supérieures à 1% du PIB, sans plomber le budget de l'État fédéral.
Alors Stéphane, c'est très intéressant. Stéphane, oui. C'est très intéressant ce que vous développez. Vous êtes spécialiste de géopolitique allemande, vous êtes professeur des universités. On fait le point hein, sur la stratégie de la nouvelle Allemagne après l'élection du chancelier CDU, Friedrich Merz, qui a forgé d'ailleurs une coalition d'union nationale. Vous venez de le rappeler, il veut augmenter les budgets de défense de l'Allemagne face à la Russie poutinienne. Est-ce qu'il y a, selon vous, en quelque sorte, une union sur ce point, un accord sur ce point entre l'Allemagne de Merz et la France d'Emmanuel Macron?
Je serais prudent. Je serai prudent parce que je pense que le gouvernement Merz, oui, le chancelier Friedrich Merz, certainement. Il y a une entente, une nouvelle entente dans ce domaine entre le président Macron et Friedrich Merz, c'est clair et net. Ils vont dans le même sens. La question de la souveraineté européenne est désormais n'est plus un tabou du côté allemand. Donc on va dans le sens français. Il y a, on pourra en parler peut-être, quelques points encore de divergence, mais aussi de convergence possible, ça c'est clair. Moi, je suis plus sceptique, un peu moins sûr, c'est à l'intérieur même du gouvernement et entre les deux partis au pouvoir, le SPD, les sociodémocrates et les chrétiens-démocrates de la CDU-CSU. Parce que hier encore, l'aile pacifiste du SPD a démontré qu'elle n'a pas l'intention de suivre la politique engagée par la Grande Coalition. Hein, je vous rappelle que hier, il y a eu un manifeste pour la paix en Europe signé par une centaine de personnalités membres ou proches du SPD qui prônent un dialogue avec la Russie.
Alors justement, c'est très étonnant. On aurait pu penser que les sociaux-démocrates allemands, hein, c'est ce que recouvre le terme de le sigle de SPD, Stefan Martens, seraient plutôt du côté d'une position de fermeté face à la Russie poutinienne, on va dire comme l'aile gauche du macronisme, comme le Parti Socialiste en France. Eh ben non. Comment vous expliquez cette espèce de résurgence du pacifisme de guerre froide au sein du SPD ?
Bah écoutez, il y a un phénomène de fond. Quand même, c'est que l'Allemagne est un pays, jusqu'à maintenant, était un pays pacifiste. Toute une culture de la retenue qui date de la fin de la seconde, de l'après-guerre, de l'après-seconde guerre mondiale. Une dénazification, une démilitarisation qui a été inculquée par les alliés, dont la population, la société civile a fait sienne, hein, tout à fait. Et donc des grands mouvements pacifistes des années 70 et 80 ont eu lieu en Allemagne. Il y a eu des instituts de recherche consacrés à la paix, la recherche sur la paix, quelque chose d'assez original, inédit dans les pays occidentaux. Et surtout, les chanceliers Willy Brandt et puis Helmut Schmidt, jusqu'à Helmut Kohl, qui se sont débuté et poursuivi cette fameuse Ostpolitik, la politique à l'Est, qui était une politique de détente envers les pays de l'Est, et notamment et surtout avant tout l'Union soviétique. Eh bien, aujourd'hui, oui, il y a résurgence de cette volonté de dialoguer avec un pays qui mène une guerre, mais avec lequel il faut compter. Certains prédisent qu'il ne peut pas y avoir de sécurité en Europe sans la Russie. Avant, c'était avec l'Union soviétique, maintenant la Russie. Et c'est peut-être encore minoritaire, même au sein du SPD, même si j'ai parlé tout à l'heure d'une centaine de personnalités. Mais c'est un phénomène qui pourrait prendre de l'ampleur, parce que, je le répète, l'Allemagne, jusqu'à aujourd'hui, c'est pour ça que je suis un peu sceptique sur la possibilité d'un gouvernement fédéral d'aller encore plus loin dans l'opposition avec la Russie. Fondamentalement, c'est un pays qui se veut pacifiste et qui ne perçoit pas la guerre avec un réarmement, la paix, pardon, avec un réarmement. C'est un courant profond qui traverse la société civile allemande et qui touche évidemment un certain nombre d'hommes politiques. Je dirais pas les Verts, pas tellement. Ils ont fait ils ont revu leur doxa fondamentale. Les Verts, rappelez-vous, Madame Baerbock, l'ancienne ministre des Affaires étrangères, était une, entre guillemets, va-t-en-guerre, hein, qui avait déclaré que, l'Europe était en guerre contre la Russie, c'était il y a 3 ans. Mais au sein du SPD, le courant pacifiste reste fondamentalement très très fort.
Alors Stefan Martens, vous êtes professeur des universités à Cergy-Pontoise, vous êtes germaniste, spécialiste de géopolitique allemande, vous avez dirigé d'ailleurs récemment, co-dirigé avec Daniel Göller et Rainer Markowitz, un dossier spécial d'Allemagne d'aujourd'hui, la revue éditée à Strasbourg sur ce sujet. On commente tout ça, la nouvelle Allemagne, celle de Merz, qui se réarme, qui veut se réarmer face à la Russie poutinienne. Est-ce que cela peut entraîner, d'après vous, une reprise de cette dynamique européenne politique que certains appellent aujourd'hui de leur vœu? On sait qu'en France, hein, un certain nombre d'acteurs politiques appellent cette nouvelle union, en quelque sorte, européenne de leur vœu. Est-ce que ça peut avoir un effet d'entraînement, un effet de propulsion sur la relance de la construction européenne qui est un petit peu encalminée ces dernières années?
Je dirais oui et non. désolé. Mais
je vous en prie.
Il y a des points effectivement très intéressants qui indiqueraient que on peut aller plus loin maintenant avec le président Macron et le nouveau chancelier Friedrich Merz. Il y a des points de convergence possibles en politique industrielle, c'est notable. La conversion de l'Allemagne à ce concept apparaît à travers plusieurs passages, dont l'accord gouvernemental du 5 mai dernier. C'est nouveau, c'est très intéressant, on rejoint un petit peu la position française, et c'est très intéressant au niveau dans les domaines de la défense et de l'énergie. Et il y a aussi la vision d'une Europe souveraine, effectivement. Depuis le discours de la Sorbonne de Macron, ni Mme Merkel, ni M. Scholz n'avaient vraiment véritablement répondu au président français, alors que Friedrich Merz a fait savoir que c'était un concept intéressant à suivre. Et là aussi, dans l'accord gouvernemental du 5 mai dernier, il y a des choses intéressantes, comme, je prendrai un seul exemple, le fait de rendre possible plus de décisions à la majorité qualifiée, au sein du Conseil de l'Union européenne, pour améliorer, accélérer la prise de décision en matière de politique étrangère de sécurité commune. En revanche, si vous voulez, ce que j'ai remarqué, c'est que si le moteur franco-allemand est évidemment mis en avant par le chancelier Merz, en même temps, les références à la méthode communautaire et à l'évolution de l'Union européenne vers un État fédéral européen font défaut. Alors que ces concepts, ces références figuraient dans l'accord de coalition de 2021. Vous voyez ? Donc, pareil pour relancer le moteur, en quelque sorte, du triangle de Weimar, ce qui est souhaité.
Alors, il faut dire un mot, justement, Stéphane Martens. Oui. Nous parlons de l'Allemagne, depuis l'élection du chancelier Merz. Le triangle de Weimar, c'était ces accords qui avaient été scellés dans les années 90, notamment par le ministre Genscher, à l'époque, en Allemagne, et Roland Dumas en France, qui étaient des accords, on va dire, trilatéraux entre la France, l'Allemagne et la Pologne. Est-ce que vous pensez que l'élection d'un président eurosceptique en Pologne remet en cause cette alliance profonde entre Paris, Berlin et Varsovie, et quelles implications, là encore, sur cette dynamique européenne que nous évoquons ce matin au micro de Radio J, Stéphane Martens ?
Non, je pense que le fait qu'il y ait une personnalité politique plus eurosceptique en Pologne ne va pas gripper la machine européenne. Et je pense qu'il faut, du côté français-allemand, on va faire avec. Il faut discuter, dialoguer avec ce partenaire européen. Ce qui est un petit peu compliqué ou complexe, on va dire, c'est que le triangle de Weimar, c'est un forum informel. Il n'y a pas de structure comme dans le traité de l'Élysée ou le traité d'Aix-la-Chapelle entre la France et l'Allemagne. Donc c'est une structure informelle qui n'oblige à rien, en quelque sorte. C'est qui dépend de la bonne volonté des gouvernants. Donc il y a des choses à faire. Il faut relancer ce dialogue trilatéral, bien sûr. D'ailleurs, M. Merz, après sa visite à Paris le 7 mai, est parti immédiatement à Varsovie. Mais en même temps, je à voir comment les choses vont se développer, avec quels moyens, quelles modalités, la pratique. Est-ce qu'il y aura des rencontres au sommet de manière régulière? Donc ce sont des choses quand même qui restent en suspens, et donc je m'interroge sur l'avenir, effectivement, de ce triangle de Weimar, surtout de son efficacité.
Alors, c'est très intéressant, on fait le tour un petit peu d'horizon des grands enjeux de cette nouvelle Allemagne chrétienne-démocrate. Vous venez de nous expliquer qu'il n'y a pas forcément de convergence sur la Russie poutinienne entre les sociodémocrates et les chrétiens-démocrates. Vous venez de nous expliquer aussi que Merz est décidé à augmenter les budgets de défense pour consolider, en quelque sorte, les lignes de défense potentielles de l'Allemagne et donc de l'Europe face à la Russie poutinienne, plus agressive que jamais. Sortons d'Europe, justement, un instant. Vous consacrez une partie de vos analyses récentes à ce retour de la géopolitique dans la pensée allemande. La géopolitique, c'est un terme qui date du 19e siècle, en fait, qui avait été forgé par Friedrich Ratzel et Karl Haushofer, qui étaient deux penseurs de l'Allemagne. Longtemps, ça a été en sommeil, puis ça revient. Quelle est, justement, la vision géopolitique globale des relations internationales qui, aujourd'hui, prédomine à Berlin, d'après vous, Stéphane Martens? Quelle idée se fait du monde, justement, à Berlin?
Alors, permettez-moi, juste sur le terme géopolitique, nous avons consacré dans la main d'aujourd'hui ce fameux dossier sur la renaissance de la géopolitique dans l'action et la pensée politique en France et en Allemagne. Mais il faut bien savoir de quoi il s'agit, pas la géopolitique des années 20-30 du siècle dernier, inspiré par Friedrich Ratzel et plus tard par Karl Haushofen, qui est une géopolitique à tendance déterministe. Hein. Nous nous plaçons bien évidemment dans le contexte actuel d'une géopolitique critique, celle inspirée par un géographe comme Yves Lacoste, qui a élaboré dans les années 70-80, et qui est une géopolitique qui, justement, rejette le déterminisme et qui analyse l'ensemble des forces à l'œuvre, qu'elles soient politiques, économiques, culturelles, retient les constantes géographiques, les continuités historiques, mais qui, je le répète, est consciente de cet écueil déterministe. Hein, et donc, qui analyse des conflits sous l'angle plutôt des représentations. Hein, donc, j'aime bien ce terme, le choc des représentations. Pour moi, c'est ça la géopolitique. Et ce dossier, dans la main d'aujourd'hui, le reflète bien. Pour revenir sur l'Allemagne, les représentations, justement, la géopolitique allemande actuelle, donc les représentations que se font les dirigeants, les responsables de politique allemande, c'est l'intégration à l'Ouest après 45. C'est la politique de détente à partir de 1969, je le disais tout à l'heure, avec la politique à l'Est, la politique de détente, la chute du mur avec la réunification, et cette Allemagne qui se retrouve au centre de l'Europe. Première puissance économique, avec un certain nombre donc de responsabilités qu'il s'agit d'assumer. Le problème actuellement, c'est que faire de cette puissance et comment l'articuler, quelle est la grammaire de la puissance allemande. C'est, je crois, en ce moment même que les choses vont se décider, ou on va dire dans les mois, dans les années à venir, que faire avec cette puissance, et jusqu'à quel point assumer un leadership.
Alors justement, oui, ça c'est très important, Stéphane Martens, ce que vous nous rappelez, l'Allemagne aujourd'hui, donc elle se réveille quelque part, après les années de somnolence qu'a constitué la dernière chancellerie, c'est-à-dire celle de Olaf Scholz. Elle se réveille, elle fait 83,7 millions d'habitants à peu près, hein, 358 000 km², mais elle est la grande puissance européenne, qu'on le veuille ou non, en termes numériques, au cœur de l'Europe. Qu'est-ce que ça implique justement dans sa vision du monde global, dans sa vision de l'Afrique, dans sa vision de l'Asie, dans sa vision des grands dossiers internationaux qui nous occupent, notamment celui du Moyen-Orient, bien sûr.
Vous savez, l'Allemagne se rêve en grande Suisse, ou du moins s'est rêvé longtemps en grande Suisse. Hein, c'est-à-dire assumer sa puissance économique, mais être dans une situation où elle n'a pas à devoir trancher des conflits dans des conflits et prendre trop position, trop ferme, etc. Une grande Suisse, donc, qui aujourd'hui est utopique, parce que l'Allemagne, effectivement, doit assumer cette puissance. Je le répète, c'est la grande question. Si vous voulez, l'Allemagne s'est jusqu'à maintenant vue comme une puissance exportatrice. Hein. Elle a été dopée à la fois par un accès à une énergie bon marché, le gaz russe, pendant des décennies, par une demande colossale de la Chine, qui achetait à tout va Made in Germany. Et ce modèle-là s'est fracassé en quelque sorte sous l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et donc par le ralentissement de la machine économique de l'Empire du Milieu. Et en plus, en quelque sorte un coup de boutoir qui est assez brutal, peut-être pas inattendu, mais assez brutal, c'est l'ami américain qui attaque son allié avec la présidence Trump, hein, déjà dès 2016, et qui menace l'Allemagne et son industrie automobile de droits de douane mortifères. L'Allemagne en plus bénéficie du parapluie américain au niveau de sa sécurité. Tout cela est remis en cause. Tout cela est remis en cause, d'où une adaptation qui sera certainement douloureuse. Il y a des indices qui montrent que l'Allemagne essaie de s'en sortir, essaie de revoir son modèle avec une transition énergétique, avec un partenariat américain qu'on souhaite rééquilibrer davantage, avec la volonté de construire une défense européenne sans perdre sa propre souveraineté. Bien sûr, on pourra y revenir, parce que la souveraineté européenne, ma foi, ni Macron ni Merz ne prônent une remise en cause de la souveraineté des États. Mais voilà, il y a une sorte de d'adaptation et de réajustement, en quelque sorte, du curseur qui est en train de se produire. Mais à savoir si l'Allemagne va vraiment basculer dans une ère nouvelle, j'attends voir. Je pense qu'il est trop tôt pour pouvoir se prononcer là-dessus.
Alors c'est passionnant. Ce matin, on fait le point sur cette nouvelle Allemagne dont nous parlons. Stéphane Martens, vous êtes un spécialiste de ce pays. Vous êtes professeur des universités, spécialiste de géopolitique, auteur de nombreux essais consacrés à la mythologie Europa et à l'Allemagne. Justement, vous nous dites que pour l'instant, il y a encore de l'indécidable dans ce basculement. Alors, on va consacrer les 5 dernières minutes de cette passionnante émission, Stéphane Martens, au décryptage de quelque chose qui va beaucoup intéresser évidemment nos auditrices, nos auditeurs, qui est la relation spécifique, on va dire étroite, peut-être même d'une affinité élective, Wahlverwandtschaft, qui existe aujourd'hui entre l'Allemagne, entre la République de Berlin et entre Israël, la République de Jérusalem, si j'ose dire. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui dans le contexte qui est international, que nous connaissons tous, et qui est celui aussi où va se profiler dans les semaines qui viennent la recherche d'un solution making global à l'échelle de la région?
Alors, c'est un sujet extrêmement délicat.
Bien sûr.
Extrêmement délicat parce
que vous allez nous le décrypter avec votre intelligence.
Merci. Mais c'est un sujet délicat dans le sens où il y a dans ce domaine-là, dans ce domaine particulier des relations germano-israéliennes, un moment crucial dans leur relation qui est en train de se passer. On va dire que, vous savez, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et la création de l'État d'Israël, l'Allemagne, en tout cas la République fédérale dans un premier temps, a reconnu sa responsabilité historique et morale par rapport à la Shoah et a déclaré très rapidement, dès les années 60-70, sa responsabilité envers la sécurité de l'État d'Israël, son intégrité et sécurité. Et on a vu avec Madame Merkel, ce sont des choses qui ont été répétées par les présidents de la République fédérale et aujourd'hui par Monsieur Scholz, notamment aussi, pardon, le chancelier Scholz, que Israël constitue une raison d'État pour l'Allemagne. Donc raison d'État, ça va très loin.
Et raison d'État, ça veut dire que l'Allemagne, en raison de cette politique de réparation des crimes nazis, s'engage à défendre Israël en cas, justement, où sa sécurité vitale serait mise en danger. C'est ça que ça veut dire, notamment. Hein.
Tout à fait. La sécurité d'Israël fait partie, comme l'a dit Mme Merkel, fait partie de la raison d'État allemande. Donc on est dans plus qu'un partenariat, on est dans quelque chose d'existentiel.
Qui est une alliance à la vie et à la mort, en quelque sorte. Hein.
C'est une alliance quasiment à la vie et à la mort, on peut le dire. Et aujourd'hui encore, malgré les critiques que M. Merz a laissé entendre vis-à-vis de la politique du Premier ministre israélien Netanyahou en Gaza, malgré tout, les livraisons d'armes allemandes continuent.
C'est ça. Hein.
Donc il y a et chaque chancelier, chaque responsable politique allemand répète à Issyan que l'Allemagne est solidaire, quoi qu'il arrive, de l'État d'Israël. Alors bien sûr, le problème c'est que aujourd'hui, à la vue de ce qui se passe en Gaza, vu les protestations de différents États, je pense notamment au Nicaragua qui a l'année dernière attaqué, mis en cause l'Allemagne, c'est qu'effectivement, à force de vouloir prôner la ni vide, hein, le plus jamais par rapport au génocide à la Shoah, l'Allemagne se trouve quasiment dans une sorte de piège qui se referme, hein, sur le pays. Jusqu'à quand? Ce sont les critiques qui le disent à l'Allemagne.
Bien sûr, c'est pas vous.
L'Allemagne,
oui.
Va-t-elle pouvoir tolérer ce qui se passe sur la ligne de Gaza?
C'est pas vous qui le dites, c'est l'analyse que vous faites des critiques qui sont émises,
voilà.
Absolument.
Tout à fait. Donc voilà, alors les Allemands tiennent encore, on va dire comme ça, tiennent dans le sens solidarité à outrance et en raison d'État, mais c'est la culture mémorielle allemande, voire européenne, mais enfin là on parle de l'Allemagne, la culture mémorielle allemande qui est peut-être mise en cause. Comment les choses vont se passer à l'avenir? Quelle culture mémorielle l'Allemagne va-t-elle développer à partir de cette situation,
voilà,
maintenant au Proche-Orient?
Alors il nous reste 30 secondes, le réalisateur nous fait des grands signes, on va très vite, Stéphane Martens, c'est passionnant. Il y a beaucoup de juifs d'Europe centrale, orientale, qui s'installent à Berlin. Est-ce que ça a une signification pour tout ce que nous venons de développer? En 30 secondes, je suis désolé.
Oui oui, c'est normal. L'Allemagne est un pays d'accueil pour les Juifs après ce qui s'est passé. Regardez le mémorial aux Juifs d'Europe assassinés en Europe, construit au milieu de la capitale, à côté du Bundestag, établi dans l'ancien Reichstag, en plein centre de Berlin, à côté de la porte de Brandebourg. Ça a été édifié par les Allemands eux-mêmes, les bourreaux qui ont édifié à la mémoire de ceux qu'ils ont assassinés. C'est un signe très fort, un symbole très fort. Donc cela ne m'étonne pas, tous les gouvernements allemands, tous les responsables allemands ont toujours déclaré que les Juifs, notamment persécutés, qui fuient la guerre, etc., sont les bienvenus en Allemagne.
Pardonnez-moi de vous interrompre. Allemagne d'aujourd'hui, le dernier numéro sur la renaissance de la géopolitique. Merci beaucoup, Stéphane Martens, pour ces analyses. On vous souhaite à toutes et tous, ainsi qu'à vous, bien sûr, un très bon Shabbat. Merci.